autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous demander depuis quand, pourquoi et comment la Terre s'est offert des fleurs. Apparue il y a seulement 150 millions d'années, comment les plantes à fleurs ont-elles usé de tous leurs atours, de leur intelligence et de leur sexualité débridée pour coloniser toute la planète? Un monde sans fleurs, cela semble en effet totalement inimaginable aujourd'hui. Et pourtant la Terre s'en est passée pendant presque 300 millions d'années. Alors comment sommes-nous rentrés dans l'âge de la fleur? Depuis quand et pourquoi les plantes fleurissent de toutes les manières possibles et imaginables? Comment expliquer un tel succès évolutif? Une telle diversité de couleurs, de formes, de parfums chez les plantes à fleurs? Les angiospermes ou le système sexuel le plus diversifié de la planète à découvrir aujourd'hui avec notre invité, le chercheur François Parsi, qui vient de publier « L'histoire secrète des fleurs ». Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises autour de la question « Pourquoi le monde s'est offert des fleurs ?» Bienvenue. Bonjour François Parsi.
Bonjour Caroline.
Merci d'être venu depuis Grenoble pour partager en direct avec nous vos travaux, recherches et découvertes sur l'histoire secrète des fleurs. C'est le titre de votre essai bourgeonnant, vif et passionnant, paru aux éditions Humaine Science. Il faut préciser, François Parsi, que vous êtes directeur de recherche au CNRS, au laboratoire de physiologie cellulaire et végétale de l'université de Grenoble-Alpes. Votre équipe de recherche a contribué, entre autres, à lever le voile sur l'origine et la formation des fleurs. L'abominable mystère, hein, selon Darwin, se lève un peu aujourd'hui, même si pour vous, la question centrale reste quand même de comprendre qu'est-ce qui fait fleurir les fleurs? Pourquoi et comment elles fleurissent autant? C'est ça, François Parsi?
Exactement. Comment elles fleurissent sur un plan? Comment ces fleurs se forment? Mais aussi, d'où vient leur grand succès sur notre Terre?
Car c'était pas gagné d'avance, hein. On oublie souvent, vous le rappelez d'ailleurs dans votre introduction, que la Terre a vécu des millions d'années sans fleurs. C'est inimaginable pour nous, mais c'est une des énigmes et un des mystères les plus abominables selon Darwin.
Oui, oui, tout à fait, vous l'avez rappelé, il y a eu 300 millions d'années pendant lesquelles il y a eu des plantes sur Terre. Il y a eu des mousses, il y a eu des fougères, il y a eu des conifères, par exemple la grande famille des gymnospermes, mais il n'y avait pas de fleurs. Et aujourd'hui, ça nous semble inimaginable parce que les plantes à fleurs, elles représentent la vaste majorité des espèces sur Terre.
Oui, vous le dites aussi, tout ce qu'on mange est à fleurs.
Alors hein. Ça, c'est très important. Hein. Tout ce qu'on mange est plante à fleurs. La quasi-totalité des fruits et légumes. Donc aujourd'hui, on se nourrit, les herbivores se nourrissent grâce aux plantes à fleurs. Et les choses qu'on mange qui ne viennent pas des plantes à fleurs sont vraiment des exceptions. Hein.
Alors, la première fleur, vous avez essayé, hein, c'est un gras. Hein, d'essayer de remonter à la toute première fleur ou à la mère de toutes les fleurs, enfin de toutes les plantes à fleurs.
Oui, exactement. Pour être précis, en fait, on essaie de remonter à la mère de toutes les fleurs actuelles. Ce n'était pas forcément la première fleur. Il y a peut-être des choses qui se sont passées entre elle et la première fleur. Mais on essaie de savoir à quoi pouvait ressembler la fleur qui a donné naissance à toutes les autres. Puisqu'en fait, on sait que c'est un événement originel et que toutes les espèces de plantes à fleurs d'aujourd'hui découlent d'une même plante à fleurs.
D'une première qui a eu une petite graine et l'idée de faire des fleurs. Comment on peut dire ça comme ça?
Effectivement, une première qui a innové et qui a commencé à se reproduire avec cet organe-là.
Vous avez notamment étudié, enfin vous étudiez toujours, je crois, une étonnante plante gymnosphère. Son petit nom, c'est Welwitschia mirabilis.
Oui, bravo pour la prononciation, elle n'est pas si facile. Welwitschia mirabilis, c'est une plante qui pousse seulement dans les déserts d'Angola et de Namibie, le désert du Namib, dans les déserts côtiers. Elle vit jusqu'à 1000 ou 2000 ans. Et c'est une plante de la grande famille qui s'appelle les gymnospermes, effectivement. Donc elle n'a pas de fleurs, elle a des cônes mâles qui font du pollen, elle a d'autres plantes avec des cônes femelles qui donnent les ovules, et c'est comme ça qu'elle se reproduit. Mais en fait, elle est antérieure, disons, à l'origine des plantes à fleurs.
Donc ce serait la grand-mère alors de toutes les plantes à fleurs. On sait pas très bien.
On peut pas vraiment dire la grand-mère si vous me permettez de vous corriger,
mais c'est plutôt une cousine
en fait. C'est le grand groupe des conifères et des gymnospermes, c'est le groupe cousin des plantes à fleurs. Donc ils ont un ancêtre commun à partir duquel ont dérivé d'une part le groupe des sapins, des pins, du ginkgo biloba et de Welwitschia. Et puis sur l'autre branche, il y a toutes les plantes à fleurs, peut-être 300 000.
Qu'on appelle les angiospermes, c'est Voilà.
Angiosperme. Alors, si on veut expliquer, hein, angiosperme, ça veut dire ovule dans une boîte, ovule enfermé, puisque dans une plante à fleurs, les ovules sont enfermés dans le pistil et puis dans des parois qu'on appelle les téguments. Et alors que chez les conifères, par exemple, les ovules sont nus sur une écaille et elles sont directement accessibles au pollen qui est transporté par le vent.
Elles n'ont pas besoin des fleurs, alors que les plantes à fleurs aujourd'hui, donc les angiospermes, c'est combien ? C'est plus de 400 000 espèces
Oui, grossièrement, on peut dire 90 à 95% des plantes sur Terre, des espèces de plantes sur Terre, sont des plantes à fleurs. Donc c'est la très vaste majorité.
Autour de la question, pourquoi la Terre s'est offerte tant de fleurs ? Première piste de réponse, évidemment incomplète, à chercher dans le registre des plantes fossiles. C'est l'éclairage du biologiste et botaniste Hervé Sauquet, spécialiste de l'évolution des fleurs, maître de conférence à l'université Paris-Sud, qui est un peu comme vous, François Parcy, jardinier archéologue.
Il est évident que c'est dans le registre fossile qu'on va chercher un très grand nombre de preuves les plus tangibles de ce qui a pu se passer en termes d'évolution des formes, en termes de biogéographie également. Le registre fossile, en fait, des plantes et des plantes à fleurs en particulier, il est très incomplet, il est très partiel. Et comparé, par exemple, aux mammifères, on connaît proportionnellement beaucoup moins de plantes. Et donc ça pose un certain nombre de problèmes, on le comprend pas complètement en fait. Pour donner un exemple, on parlait de tunnel tout à l'heure, il y a un tunnel majeur de trous dans le registre fossile. On sait que les orchidées, hein, la deuxième famille de plantes à fleurs la plus riche au monde, a plus de 20 000 espèces, tout le monde connaît les orchidées, a probablement au moins 65 millions d'années, on n'est pas sûr, mais environ. Eh bien, pour ces 20 000 espèces d'orchidées actuelles, il existe 3 fossiles connus au monde, dont les deux derniers, je crois, ont été découverts très récemment. Et donc, ça donne la mesure du fait que ce n'est pas parce qu'un groupe est extrêmement diversifié et colonisé beaucoup d'environnements, pour les orchidées principalement tropicaux, qu'on va le trouver dans le registre fossile. Et c'est peut-être ce qui s'est passé aux angiospermes, en fait. Elles étaient peut-être soit sous une forme... comme les orchidées, alors on pense que c'est pas le cas, mais herbacées qui se fossilisent mal, ou peut-être dans un environnement qui prêtait pas du tout à la fossilisation. Donc l'essentiel de la biodiversité passée, en fait, ne s'est jamais fossilisée. On a vraiment de la chance quand on trouve un fossile.
Vous êtes d'accord avec Hervé Sauquet, François Parcy? Je voudrais juste corriger, effectivement, Hervé Sauquet est maintenant chercheur en Australie, oui, hein, au Jardin Royal Botanique d'Australie, et vous aviez participé avec lui à une émission sur France Culture, la méthode scientifique de laquelle est extraite cet extrait. Mais vous êtes d'accord avec lui, c'est de la chance quand on trouve un fossile?
Ah oui, les fossiles sont extrêmement précieux, hein. Ils sont précieux à la fois pour les datations, pour essayer de recaler un peu à quel âge se sont faits les différents événements, mais ils sont extrêmement précieux aussi pour voir à quoi ressemblaient ses ancêtres potentiels.
Pour essayer de comprendre quand, comment la première fleur est apparue.
Bah oui, puisqu'en fait, cette date d'apparition pour les plantes à fleurs, c'est un graal dans la biologie des plantes. C'est d'essayer de comprendre à peu près quand elles sont apparues. Les plus vieux fossiles aujourd'hui, jusqu'à très peu, c'était à peu près 130 millions d'années. Mais il y a des calculs qui sont faits qui suggèrent que ça puisse être beaucoup plus ancien. Et puis très récemment, je le raconte dans le livre, il y a une plante qui s'appelle Nanjingantus qui a été découverte en Chine.
Et qui a tout changé.
Et qui a tout bouleversé. Et en fait, depuis la sortie du livre, il y a quand même des gens dans le domaine hein, qui questionnent est-ce que vraiment ce Nanjingantus, est-ce que c'est une plante à fleurs ou pas une plante à fleurs. Et il faut imaginer qu'ils sont en train d'observer des fossiles, donc c'est pas toujours facile hein, d'observer, on peut pas disséquer. Donc on fait des hypothèses, des supputations. Pour l'instant, c'est le fossile le plus ancien qui aurait 174 millions d'années.
174 millions d'années pour la première fleur sur la Terre. Alors, je voudrais nous arrêter sur l'image d'une orchidée. Hervé Sauquet parlait des orchidées, une orchidée incroyable dont vous nous avez très gentiment passé la photo pour illustrer notre page hein, sur Internet. Donc, amis auditeurs et internautes, vous pouvez la voir. C'est l'orchidée de l'homme nu. Mais vous nous la décrivez.
Oui, alors elle s'appelle Orchis italica, c'est son nom latin. Et l'orchidée de l'homme nu, en fait, c'est parce qu'elle a un pétale qui ressemble à un petit bonhomme. C'est un petit pétale un peu rosé, blanc. Et on dirait vraiment la silhouette d'un homme. Et on voit très bien un membre entre ses deux jambes. C'est pour ça qu'elle a été surnommée l'orchidée de l'homme nu. Et voilà, alors les orchidées, hein, comme il le dit, c'est
incroyable.
Une famille extraordinaire de diversité. Et puis c'est aussi les reines de la séduction. Et donc souvent elles ont un pétale très différencié qu'on appelle le lobe. Et ce pétale-là, il va jusqu'à parfois ressembler à un insecte lui-même. Et il trompe les insectes au point qu'ils essaient de copuler avec ce pétale.
Manipulatrice, hein, les fleurs, hein. Grande manipulatrice, grande séductrice. Les fleurs, c'est le système sexuel le plus diversifié de la planète. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Mâle et femelle, mâle ou femelle, les deux à la fois. Enfin, tout est possible.
Tout est possible. Alors là, il n'y a pas d'inhibition dans le système sexuel. Effectivement, on a des plantes où... la base de la fleur, c'est d'avoir les organes mâles, que sont les étamines, et les organes femelles, qui est le pistil, regroupés sur une même structure. Mais à partir de ça, il y a eu des tas de diversification, et donc il va y avoir des fleurs qui sont seulement mâles, des fleurs qui sont seulement femelles. Chez les cucurbitacées, par exemple, il y a
cucurbitacées, c'est
Les concombres, les melons, les courgettes, voilà. Il y a des systèmes sexuels tout à fait étonnants. C'est par très exemple, étudié par un Français qui s'appelle Abdelhafid Bendaman. Et en fait, il montre qu'il y a des plantes qui ont des fleurs mâles et des fleurs femelles, d'autres qui ont des fleurs mâles et hermaphrodites, ou femelles et hermaphrodites. Donc il y a une diversité des systèmes sexuels qui est absolument incroyable.
C'est parmi ce qui est le plus fascinant chez les fleurs, c'est cette diversité. Alors, deux systèmes sexuels, mais de couleurs, d'odeurs, tout ça étant lié hein, pour la reproduction. Mais c'est cette diversité incroyable qui nous fascine, qui nous émerveille et qui vous interpelle, vous les chercheurs.
Oui, en fait, il y a une diversité, comme vous l'avez dit, des formes, des parfums, des couleurs, des organisations. Le nombre de pétales, par exemple, est extrêmement variable. Donc, à partir d'une origine commune, il y a eu ensuite une diversification absolument incroyable. Et ça fait partie des choses qui ont été nommé l'abominable mystère par Darwin, c'est-à-dire comment, à partir d'un événement originel, on a pu avoir très rapidement une explosion de diversité.
Une explosion de diversité, on l'a dit, dans les formes, dans les couleurs et dans la sexualité. Alors autour de cette sexualité débridée des fleurs, je propose un nouvel éclairage, celui d'un philosophe qui est aussi botaniste, Emanuele Coccia, toujours très en verve sur le sexe des fleurs.
Et la fleur est aussi, en tant qu'organe sexuel, l'organe de la rencontre avec d'autres individus de la même espèce, mais surtout avec d'autres individus d'espèces différentes, car le sexe pour les plantes n'est pas une affaire juste entre deux individus de la même espèce, mais c'est une affaire cosmique. Les plantes impliquent les abeilles, les insectes, les vents, donc le sexe est un acte qui implique tout le monde et pas juste deux individus de la même espèce.
Cosmique des fleurs, ça vous inspire quoi?
C'est vrai que la sexualité chez les plantes est beaucoup moins intime hein, que chez les mammifères, puisque il faut bien imaginer qu'une plante, elle ne bouge pas. Hein. Ça fait partie de ses caractéristiques. Quand elle se nourrit, elle se défend et elle se reproduit tout en restant immobile. Mmh. Et c'est pour ça qu'elle implique des intermédiaires. Et en fait, on est très habitué à la séduction pour la sexualité. Mais là, c'est une forme de séduction particulière, puisque la fleur séduit l'entremetteur. Elle va séduire l'insecte, elle va séduire parfois l'oiseau. Il y a des cailles de Darwin, par exemple. Elle va séduire parfois des mammifères, des souris, des chauves-souris. Et donc, c'est l'entremetteur qui doit être séduit. Et c'est lui qui fait le voyage du mâle vers la femelle.
C'est assez étonnant, ça fait partie aussi des mystères de cette diversité. Peut-être pour ça qu'elles ont besoin d'être aussi diverses et variées d'ailleurs.
Alors les fleurs. Tout à fait. Vous mettez le doigt sur un point très important, c'est qu'en fait, le fait d'avoir comme ça des couples plantes-insectes ou plantes-pollinisateurs, ça a fait que ces couples, ils se sont diversifiés ensemble, ils se sont éloignés les uns des autres, et donc ça a créé des nouvelles espèces. Et ça, c'est quelque chose qui avait été noté très tôt, par un Français qui s'appelle Gaston de Saporta, qui l'avait même suggéré à Darwin. Darwin avait adoré l'idée, presque jaloux de ne pas l'avoir eu lui-même. Et en fait, il lui avait dit, je pense que dans la diversification, ces couples qui se forment, ces couples très, très ténus entre plantes et insectes, ça doit avoir joué un rôle.
D'ailleurs, vous avez une jolie formule hein, dans votre ouvrage sur la vie secrète des fleurs. Pour une plante, c'est l'insecte ou l'inceste.
Oui, j'avoue qu'elle n'est pas de moi. Hein. J'ai cité son auteur. C'est un ami à moi qui s'appelle Laurent Fraisse qui a pensé à ça. Et en fait, c'est quand je lui ai expliqué que la plante qu'on étudie au laboratoire, elle se reproduit toute seule. Elle se féconde avant même de s'ouvrir. Donc, c'est une forme d'inceste absolu puisque ce n'est même pas dans la famille.
C'est avec elle-même.
Au sein de la même personne. Et c'est lui qui a eu cette très jolie formule en disant bah oui, soit elle s'auto-féconde, elle s'auto-pollinise, soit elle a besoin des insectes. C'est l'un ou l'autre.
C'est l'inceste ou l'insecte. Là, on comprend très bien les coéquipiers de toutes ces belles fleurs autour de la question. Pourquoi le monde s'est offert, voire s'est lancé des fleurs? On continue de s'interroger avec Lara Luciani sur RFI. Le morceau s'appelle « Les fleurs ».
Tout me lasse, quand tout plein de insomnies. Je cherche un sens, ma longue errance, que rien ne me soulage, rien ne me séduit. Je pense aux fleurs qui sont parfaites, qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être. Je pense aux fleurs et c'est bête.
Fleurs de Clara Luciani sur RFI. Vous connaissiez François Parsi?
Oui, c'est des amis après la sortie de mon livre qui m'ont indiqué cette très jolie chanson.
Autour de la question pourquoi la Terre s'est offert des fleurs, nous découvrons donc l'histoire secrète des fleurs en votre compagnie. Une histoire secrète qui se révèle ces dernières années dans les labos de recherche où l'on ne cesse d'étudier les fleurs. Dans ce livre, vous consacrez d'ailleurs pas mal de pages à des chercheurs, des chercheuses, oubliées ou pas. Aujourd'hui, en tout cas, dans les labos de recherche, une des stars n'est autre qu'une mauvaise herbe. Alors pourquoi et comment? C'est Philippe Pageot du mensuel La Recherche qui vous pose la question, François Parsi.
Pourquoi est-ce que l'arabette des dames est toujours la plante dont on parle quand on parle de fleurs et qu'on fait des études sur les fleurs? L'arabette des dames, également appelée Arabidopsis thalania.
Votre réponse, François Parsi, sur cette arabette des dames?
Alors, l'arabette des dames, effectivement, Arabidopsis thaliana. Je corrige le petit défaut de prononciation. Donc, c'est une petite plante de la famille qu'on appelle les brassicacées, qui comprend les moutardes, le colza, par exemple. Mmh. Et en fait, elle a été choisie à la fin des années 80 comme un modèle végétal, puisqu'elle se prête très bien aux méthodes génétiques. Elle a un cycle de vie qui est assez court. En 2 mois, on est passé de la graine à la graine. Elle est de petite taille.
De la graine à la graine, le cycle, c'est ça. C'est vraiment de la graine à la graine. C'est pas de la graine à la fleur ou au fruit, c'est de la graine à la graine.
De la graine à la graine, ça prend 1 mois et demi, 2 mois maximum. Ensuite, elle est de petite taille. Elle a énormément de graines. Une même plante peut avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de graines. Donc, elle s'y prête très bien. Et elle a 5 petits chromosomes. Vous savez, chez les plantes, il y a une diversité des tailles de génome qui sont gigantesques. Il y a un facteur, il y a plus que 100 entre les petits génomes et les grands génomes de plantes. C'est absolument incroyable.
Il y a beaucoup plus de gènes que chez
Alors, il n'y a pas plus de gènes, mais simplement, les tailles de génome sont très différentes. En fait, chez les plantes, il y a à peu près le même nombre de gènes que chez une mouche ou chez un homme. Mais il y a des tas de séquences qui séparent les gènes. Et Arabidopsis, elle a un tout petit génome qui a permis de le séquencer. Ça a été le premier génome séquencé. Et donc, elle se prête très bien à toutes ces méthodes qu'on appelle la génétique moléculaire. Je décris ça un peu plus en détail dans ce livre. Et c'est pour ça qu'elle a été choisie. Et pour compléter la question, je dois dire que ça fait 30 ans que c'est vraiment la star chez les plantes. Mais aujourd'hui, il y a une tendance à de nouveau étudier la diversité des plantes qui existent sur Terre. Et donc, cette plante, c'est un modèle qui est un peu en déclin aujourd'hui, même si elle reste très, très largement étudiée. On voit apparaître des modèles d'études qui sont extrêmement divers, notamment chez les fleurs. On voit des tas de plantes, comme les orchidées, par exemple. On commence à avoir les moyens d'étudier toute la diversité des fleurs sur Terre.
C'est-à-dire d'étudier génétiquement des fleurs un peu différentes ou qui ne fleurissent pas comme les autres, ou c'est ça?
Exactement. Des plantes qui vont fleurir différemment ou qui vont former des fleurs différentes. Et en fait, pendant longtemps, on a eu les moyens avec la physiologie de les étudier, on les a décrites, mais on n'a pas pu vraiment tester certaines hypothèses. Et puis après, il y a eu la génétique qui permet vraiment d'établir des liens de cause à effet. Et puis aujourd'hui, on étend ces méthodes-là à des tas de plantes qui étaient jusque-là difficiles à manipuler, qui deviennent manipulables. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, les connaissances qui ont été établies chez Arabidopsis, cette plante modèle qui, comme vous l'avez dit, est une petite mauvaise herbe qui n'a pas vraiment d'intérêt pour elle-même, on se rend compte que ce qu'on a compris chez elle nous aide énormément à comprendre la diversité des plantes qui existent. Nous aide à comprendre les roses que l'homme a domestiquées, par exemple, nous aide à comprendre les tulipes, nous aide à comprendre les lys. Il y a énormément de choses qu'on comprend grâce à cette petite mauvaise herbe qui a une fleur qui est assez peu intéressante au fond. Hein.
Mais que vous avez étudié, vous avez aussi été vous avez fait des découvertes autour de cette arabette des dames.
Oui, alors effectivement, moi j'ai commencé, alors ça remonte à quand j'ai commencé ma thèse, hein. J'étais dans un labo qui était dirigé par Jérôme Giraudat, qui vient juste de partir à la retraite, et c'était lui un des pionniers en France à avoir introduit cette plante en France et à avoir démarré ses études de génétique.
On a démontré de l'hormone de stress végétal sur cette arabette.
Ah, tout à fait, là vous me renvoyez à mon passé. Oui, on étudiait le stress végétal, et en fait, notre laboratoire, donc celui de Jérôme, a été le premier à cloner un gène Ça s'appelait le clonage positionnel, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on était, il y avait en fait ce labo français qui était le premier à identifier un gène comme ça sur les chromosomes de la plante à partir de ses défauts de réponse au stress.
Défauts de réponse au stress, on étudie le stress des plantes, évidemment, évidemment. Alors, elle, c'est compliqué hein, cette question de ce que ressentent les plantes, en tout cas elles sont sensibles au stress.
Oui, alors là dans le stress, on pensait à ce qu'on appelle le stress hydrique, c'est par exemple quand elles sont mal arrosées, eh bien vos plantes stressent, ou quand elles ont froid, elles stressent aussi, donc en fait, la notion de stress, ce n'était pas du tout un stress psychologique, c'était beaucoup plus large. Hein.
Vous, ce qui vous intéresse aujourd'hui, en tout cas, j'ai l'impression, au-delà de la rabette, vous parlez notamment dans ce livre de mutants et puis de choux romanesco, de choux-fleurs. On dit bien choux-fleurs.
On dit
enfin,
bien
on pense pas à la fleur quand on pense aux choux-fleurs.
Effectivement, on ne pense pas à la fleur, mais la structure du choux-fleur, en fait, le chou lui-même, c'est dérivé de structures florales. C'est-à-dire, c'est une plante qui devrait normalement ressembler, par exemple, à un colza, avec des branches, avec des fleurs sur les branches. Et en fait, le choux-fleur, c'est un mutant particulier que l'homme a sélectionné, où en fait, il y a une sorte d'hésitation. On a le tout début du développement des fleurs, et puis on n'arrive pas jusqu'au moment où on forme les pétales. Et en fait, cette espèce de fleur se perd, et elle recommence à former des nouveaux bourgeons floraux, qui eux-mêmes forment des bourgeons floraux. Et à force d'empiler comme ça des petits étages de bourgeons floraux, on a cette structure en chou, qui peut être particulièrement remarquable lorsque c'est très régulier, comme chez le chou romanesco. Mmh. Vous avez dû remarquer hein, au marché, quand on achète ça, c'est une plante qui est presque irréelle, tellement elle est régulière d'agencement. Hein.
Étonnant, ces fleurs étonnantes. Enfin, et pourquoi finalement ces fleurs, ces pétales ont été essayés, réessayés autant de fois et de manière aussi différente? Vous avez une idée là-dessus?
En fait, si ça marche, la grande loi de l'évolution, c'est que si ça marche et si ça aide à la reproduction et si ça favorise les plantes, alors c'est conservé. Et donc il y a des essais qui se font dans tous les sens. Tous les échecs, ils ne sont plus là pour qu'on puisse
les
observer.
Mais on ne les voit pas, les échecs, bien sûr.
Ils sont effacés. Et il y en a eu, évidemment, avec 150 millions d'années, il y a eu énormément d'échecs. Mais ce qui reste, c'est les succès.
Alors, les succès ou les échecs sont étudiés depuis longtemps hein, par des chercheurs qui travaillent hein, sur ces questions-là. Aujourd'hui, vous avez les outils moléculaires, les outils génétiques pour y aller de plus près ou jusqu'à l'intérieur des fleurs. Et vous citez, alors il y a de nombreuses anecdotes dans votre livre, vous citez de nombreux chercheurs et chercheuses, notamment certaines qui ont été complètement oubliées. Je pense à une, évidemment, c'est Amy Stein, oubliée totalement du prix Nobel.
Effectivement, Amy Stein a été oubliée. Alors, si je peux oser l'anecdote, en fait, quand j'ai rencontré ma femme, sa famille, qui est allemande, m'a tout de suite dit « Ah, mais dans notre famille aussi, nous avions une grande chercheuse en biologie des plantes. » Et donc, je savais pas trop si elle était importante ou non. Et des années après, j'ai vu sur Twitter apparaître des messages disant que Amy Stein était effectivement une grande oubliée de la biologie des plantes.
Qu'est-ce qu'elle a découvert
Ce qu'elle étudiait, c'était l'effet des radiations sur les plantes. Et en fait, c'était la première à établir que si on irradiait une plante, il y avait des défauts dans la génération suivante. C'est-à-dire qu'il y avait des défauts qui étaient transmis à la génération et qui donc vraisemblablement touchaient les chromosomes de la plante. Et donc 6 ans après elle, il y a un chercheur allemand qui s'appelle Müller qui a fait des expériences très similaires, peut-être même en s'inspirant des expériences d'Amy Stein. Il a fait ça chez la drosophile. C'était un homme.
Chez la mouche drosophile.
Voilà, chez la mouche drosophile, la mouche du vinaigre. C'était un homme, ce qui n'était pas innocent à l'époque, et il a obtenu le prix Nobel pour ses découvertes, alors qu'en fait, Amy Stein avait fait exactement la même chose sur une plante qui s'appelle Antirrhinum majus en latin, mais qu'on connaît tous sous le nom de la gueule de loup.
Et oui, dans la gueule du loup, et puis elle avait le tort, Amy Stein, et d'être une femme et de s'intéresser aux fleurs et aux plantes. Hein,
oui,
ça fait beaucoup,
ça faisait
pour
beaucoup,
un seul chercheur.
Ça faisait beaucoup à l'époque où elle a vécu, effectivement. Elle a eu beaucoup de mal, par exemple, à démarrer une thèse. Hein, elle a fait un immense voyage où elle s'est intéressée à la botanique. Et quand elle est revenue en Allemagne, elle a été rejetée de la plupart des chercheurs. Et c'est seulement l'université de Jena qui a accepté qu'elle démarre une thèse. Mais ça a été, pour elle, ça a été vraiment un chemin de croix d'arriver à faire de la science.
Aujourd'hui, c'est moins un chemin de croix quand même pour les chercheurs en biologie végétale, comme vous, en physiologie végétale. On a l'impression qu'on s'intéresse enfin, je sais pas comment dire, qu'on regarde un peu plus du côté du règne végétal qu'autrefois et qu'on découvre un peu tout ce qu'il y a d'incroyable à y chercher, à y comprendre.
Oui, mais souvent on oublie que quand on regarde la vie sur Terre, la masse de la vie sur Terre, la vaste majorité, ce sont des espèces végétales. Hein. Et aujourd'hui, en biologie, vraiment le sujet roi, ça reste l'homme, parce que ça nous touche. Mais en réalité, les plantes, on leur doit énormément. On l'a déjà mentionné, on leur doit la nourriture, etc. On leur doit l'oxygène qu'on respire, on leur doit beaucoup. Et je pense que voilà, les femmes dans la science des plantes, elles sont, voilà, y a des grandes stars, j'en décris quelques-unes, mais il y a des gens qui ont fait des avancées absolument remarquables. Hein. Mais le domaine des plantes, plantes, il reste toujours un petit peu en retrait auprès de certaines personnes.
Et pourtant, de l'importance d'étudier l'histoire secrète des fleurs, hein, pour reprendre le titre de votre livre, en lien aussi, et on le comprend aussi, avec tout le vivant sur Terre. On a parlé des plantes qui se servent des insectes, évidemment, pour se reproduire. Et on pense évidemment aussi aux abeilles, particulièrement sensibles aux couleurs, mais aussi à l'odeur des fleurs et pour cause. La nature est bien faite, comme on dit, mais c'est un peu comme pour l'œuf ou la poule. Qu'est-ce qui est arrivé en premier? La couleur des fleurs? La vision chromatique des abeilles? J'ai posé la question à un chercheur, Martin Jurfa, spécialiste de la cognition et du cerveau des abeilles. Il était récemment notre invité. Écoutez sa réponse, car pour une fois, il y en a une.
Encore une fois, on n'a que des réponses partielles à cette question. Mais des collègues à l'Université de Berlin, actuellement à Londres, s'étaient intéressés justement à la vision des couleurs des abeilles, puisque la vision des couleurs des abeilles est considérée paradigmatique par rapport à l'existence des fleurs. On a toujours dit qu'effectivement, si les abeilles sont capables de voir des couleurs, et elles ont une vision, comme on dit, trichromatique, c'est-à-dire que, comme dans notre rétine, il y a trois types de photorécepteurs, c'est-à-dire sensibles à différents types de longueurs d'onde. Nous, on a par exemple des photorécepteurs sensibles dans le domaine du bleu, du vert et du rouge. Les abeilles, c'est pareil, il y en a trois, mais ce n'est pas les mêmes longueurs d'onde. Il y a des photorécepteurs sensibles, certes, au bleu et au vert, mais aussi à l'ultraviolet et pas au rouge. Peu importe. Ce qui importe, c'est qu'il y a un système de vision de couleur trichromatique comme chez nous. Et on a toujours dit que l'explication à ceci, c'est que les fleurs vont présenter des couleurs. C'est leur façon d'indiquer leur présence aux pollinisateurs. Et c'est ce qui a expliqué toujours donc, la présence de la vision des couleurs chez les abeilles. Et on a toujours dit que c'est une sorte de coexistence. Les couleurs ont évolué parce que les abeilles ont évolué la vision de couleur. C'est une sorte de synergie évolutive, etc. Mais ce que ces travaux ont montré par une étude phylogénétique comparative sur différentes espèces, primitives, moins primitives, etc., c'est que apparemment, donc, la vision de couleur est surgie après l'existence de la coloration florale. Donc, c'est-à-dire que quelque part, la vision des couleurs des abeilles est arrivée plus tard comme une façon d'exploiter les fleurs qui avaient déjà des couleurs.
Votre réaction à cette réponse haute en couleur du spécialiste de la cognition des abeilles, Martin Jurfa?
Effectivement, il y a toujours des questions autour de qu'est-ce qui est apparu en premier. Voilà. Est-ce que les fleurs existaient avant que les insectes les pollinisent? Parce qu'elles ont pu aussi s'auto-polliniser et ensuite profiter des insectes. Donc il y a des autres questions qui restent comme ça en suspens. La couleur des fleurs, c'est aussi une question assez difficile, puisque dans les fossiles, c'est pas facile de deviner la couleur des fleurs.
Et oui, est-ce qu'il y a toutes les couleurs dans les fleurs, justement, ou pas? Est-ce qu'elles favorisent, enfin, certaines couleurs sont favorisées plutôt que d'autres?
Alors, elles sont favorisées dans la mesure où elles sont très bien reconnues par les insectes. Et il y a des couleurs qui sont faites à base de pigments, il y a des couleurs qui sont faites à base de petites stries, hein, comme un CD, en fait, on appelle les couleurs structurelles, qui ne nécessitent pas de pigments, mais c'est un effet de la lumière sur ces petites stries. Et on sait que celles-là, elles sont très bien reconnues par les insectes, par exemple. Il y a moins de fleurs noires, on le comprendra, parce qu'en fait, il faut être vu, donc c'est plutôt des couleurs vives, le jaune, l'orange, et puis parce que les plantes, elles ont les pigments aussi pour les produire. Hein.
Et la génétique aujourd'hui permet de comprendre comment se font ces couleurs. Vous mettez en avant, si vous avez un chapitre où vous parlez de l'architecte et du gardien de la tige notamment. Alors là, c'est pas pour les couleurs, mais ça permet de comprendre comment se forment les fleurs.
Exactement. Alors, ce qu'on a découvert dans les dernières années, c'est qu'en fait, il existe dans le génome des plantes, il existe des protéines qui jouent un rôle majeur. Donc, c'est elles qui vont, par exemple, décider à quel endroit de la plante vont se former les fleurs. Vous savez tous que si on regarde, par exemple, une tulipe, on va avoir une fleur en haut de la tige, toute seule. Et si vous regardez un muguet, vous avez plein de petites fleurs qui poussent le long de la tige. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'architecture florale. Si vous regardez un tournesol, vous avez des centaines de fleurs disposées sur un plateau qui donnent au tournesol l'apparence d'une grosse fleur.
Le tournesol n'est pas une grosse fleur.
Ce n'est pas une fleur. En termes scientifiques, on doit appeler ça une inflorescence ou un capitule. C'est-à-dire que ce sont des centaines de fleurs, c'est vrai pour la marguerite, c'est vrai pour le gerberat. Et donc, en fait, il y a dans le génome de la plante les directions, hein, les commandes qui vont décider comment l'architecture de la tige doit se former, avec soit une fleur terminale, soit des tas de fleurs comme chez le colza par exemple, ou alors soit un plateau qui comprend toutes les fleurs. Et on a découvert effectivement qu'il y avait cet architecte floral qui décide où ça se forme, et puis qui décide aussi du plan d'organisation avec les sépales à l'extérieur, les pétales ensuite, les étamines et le pistil. Et puis il y en a un autre que j'ai surnommé le gardien de la tige, qui joue un peu le rôle inverse et qui empêche en fait l'architecte floral de bâtir des fleurs n'importe où. Alors par exemple, si on est une tulipe, le gardien de la tige, il n'est pas très fort, il n'empêche rien du tout et la tige se termine en une fleur terminale. Mais par contre, si on est un colza, le gardien de la tige est assez costaud, il va empêcher cette tige de se terminer tout de suite, et c'est pour ça que le long d'une tige de colza, on a des tas de petites fleurs, et ça fait une tige qui monte comme ça avec des dizaines de fleurs.
Parce qu'en même temps, ce qui est particulier dans ces fleurs, dans ces plantes, dans tout le règne végétal, c'est que la croissance, elle est quoi? Elle est quasi infinie, enfin elle n'est pas programmée au départ, la croissance, ou elle est programmée
Ça va dépendre des plantes, mais la grande différence entre les plantes et les animaux, c'est qu'en fait, la plante, elle répond à l'environnement. C'est-à-dire que le moment où se fait la floraison, il va dépendre énormément de l'environnement. L'architecture de la plante, elle va aussi potentiellement dépendre de l'environnement. Après, il faut distinguer les plantes qu'on appelle pérennes, qui vont fleurir chaque année, par exemple, avec les plantes annuelles qui vont fleurir, mourir. Donc ça, il y a quand même des grandes différences d'architecture entre ces plantes-là. Mais c'est vrai qu'une des grandes différences, c'est de lire dans l'environnement et que l'architecture de la plante s'adapte. Si vous coupez une tige, vous avez levé la dormance des bourgeons et puis vous allez avoir comme ça des tas de branches, ce qu'on appelle secondaires, qui vont elles-mêmes se mettre à fleurir et à pousser, ce qui n'est pas le cas chez la plupart des animaux, vous le savez.
C'est ça qui est assez étonnant dans ce règne végétal sur lequel travaillent aujourd'hui pas mal de chercheurs. Alors chez les chercheurs, ça provoque même certaines guerres, je vous cite. Comme la guerre des couronnes. C'est quoi la guerre des couronnes, François Parsi?
La guerre des couronnes, c'est un titre très inspiré qui a été donné en 1991 par deux chercheurs que je décris dans ce livre-là. L'un s'appelle Enrico Cohen, il est anglais, et l'autre s'appelle Elliot Meyerowitz, il est américain. Et en fait, ces chercheurs-là, ils ont découvert la recette de la fabrication des organes de la fleur. Comment se forment les sépales, les pétales, les étamines et le pistil. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait au sein du jeune bourgeon floral des oppositions et qu'il y avait une sorte de lutte pour aller fabriquer à un endroit le pétale, à un autre endroit les étamines. Et donc, ils ont été très inspirés d'appeler en anglais cet article « La guerre des couronnes » et c'est un article qui a eu un succès vraiment mondial, qui est énormément cité par sa valeur explicative. Aujourd'hui, en classe de terminale scientifique en France, on enseigne la guerre des couronnes, on enseigne ces fameux gènes A, B, C qui vont déterminer l'identité des organes de la fleur.
Parfois, il y a une lutte à l'intérieur pour y arriver. Il y a toujours une lutte. Sur quelle plante vous travaillez en ce moment, ou vous avez travaillé, que vous appréciez le plus, François Parsi? C'est peut-être idiot comme question à vous poser.
C'est pas une question idiote, mais disons, dans les laboratoires, en tout cas chez nous, on ne peut pas travailler sur beaucoup de plantes différentes. Donc chez nous, vous l'avez cité, on a travaillé sur Welwitschia mirabilis. Mm-hmm. On travaille encore énormément sur Arabidopsis thaliana.
Donc la première, c'est la plante des déserts namibiens, ancêtre des plantes à
L'autre,
fleurs.
L'autre, c'est la petite mouche verte, c'est notre plante de laboratoire. En ce moment, on a une étude sur le chou-fleur et le chou romanesco qu'on a mentionné. Et puis là, on commence à s'intéresser à des plantes qui n'ont pas de fleurs. On commence à s'intéresser à des mousses, à des algues, et qui, même si elles n'ont pas de fleurs, possèdent au sein de leur chromosome l'architecte floral.
De quoi en faire, finalement?
Elles ont de quoi en faire, mais elles n'ont pas encore tous les éléments, mais elles se préparent, en quelque sorte. Et donc, on essaie de comprendre comment cet architecte floral, il a pu évoluer petit à petit pour acquérir sa fonction florale à une époque où, en fait, il ne l'avait pas du tout. Et ça, c'est un sujet du futur dans notre laboratoire.
Autour de la question pourquoi le monde s'est offert des fleurs et comment le comprendre, vous nous offrez, François Parsi, non pas un bouquet, mais enfin presque un très joli bouquet musical. Ça s'appelle The Gardener, morceau floral, donc, du suédois The Tallest Man on Earth sur RFI.
The chimney from all the evidence that
Sur RFI, signé The Tallest Man on Earth. Merci pour ce joli choix musical. François Parcy, vous jardinez vous-même ? Vous plantez vos fleurs ?
J'habite un appartement, mais j'ai des tas de bacs sur toutes mes fenêtres et j'ai des tas de plantes. J'ai un vrai bestiaire de plantes. J'ai un ginkgo biloba qui pousse chez moi.
Et ginkgo biloba, c'est des plantes centenaires.
Alors c'est une plante effectivement qu'on qualifie parfois de fossile vivant. Mm-hmm. Donc c'est pas une plante à fleurs. Il est tout seul dans son genre. C'est vraiment une particularité. Et c'est pas une plante à fleurs. Ça fait partie de la grande famille des gymnospermes. Il y a des arbres avec des ovules et des arbres avec du pollen, mais on n'aura jamais de fleurs sur un ginkgo biloba.
Vous le regardez autrement, sachant tout ce que vous savez, étant vous-même biologiste.
Alors là, c'est certain. Et puisque en fait, on a publié un article il y a quelques années sur la protéine du ginkgo biloba. Donc on n'a pas eu à le faire pousser, mais on a extrait ses protéines. Et j'avoue que quand on sait un peu ce qui se passe à l'intérieur des plantes, on les regarde différemment. Et il y a une forme de magie des molécules, si j'ose dire. Et donc la beauté de la fleur qu'on voit à l'échelle macroscopique, hein, elle se retrouve en fait à l'échelle des molécules. Et de comprendre ces mécanismes.
C'est beau dans l'infiniment petit, jusqu'aux petites molécules, c'est toujours beau.
C'est beau dans l'infiniment petit. Et en fait, les trouvailles de l'évolution, elles sont à la fois jolies par les formes, les couleurs. Mais quand on les comprend au niveau des molécules, au niveau des mécanismes, on est tout aussi ébahi en fait. Mmh. Et j'avoue, c'est vrai, quand je regarde mon ginkgo biloba, j'y vois des choses que peu de gens doivent voir parce que j'ai étudié l'une de ces molécules-là.
Oui, il faut dire que l'émerveillement, il est à tous les niveaux. Dès qu'on parle des fleurs, pour tout le monde, ça parle et c'est toujours positif, les fleurs.
C'est vrai que c'est connoté très positivement. Hein. On les utilise, voilà, comme on le mentionnait, pour la séduction, mmh. pour les grands événements. La fleur, c'est quelque chose qui est globalement extrêmement positif et ça simplifie aussi notre vie de scientifique puisqu'on peut parler de fleurs au grand public, on peut parler des organes de la fleur. C'est quelque chose sur lesquels il est relativement facile.
Tout le monde et on se représente, hein, même à la radio, sans problème, on voit les fleurs dont vous parlez. Alors il faut dire quand même que vous avez été à bonne école, François Parcy, parce que votre mère était fleuriste, et votre grand-père s'appelait comment ? Rappelez-nous son prénom.
Alors effectivement, alors, mon grand-père s'appelait Floréal, donc c'est un peu prédestiné. Alors c'était pas pour les fleurs, mais plutôt pour le mois révolutionnaire.
Et oui.
Il était élu communiste dans la vallée de Chamonix. Et puis ma mère, alors plus maintenant, mais au tout début de sa carrière, elle était effectivement fleuriste, elle avait un magasin de fleurs.
Et d'après ça a joué,
je ne sais pas si ça a joué, peut-être inconsciemment, mais en tout cas, des amis m'ont raconté que quand elle décorait sa vitrine et que j'étais tout bébé, elle me posait souvent dans un petit berceau au milieu des fleurs et que je mangeais des marguerites. Alors, il est possible que ça ait influencé ma carrière future.
Sur votre carrière de chercheur. Autour de la question pourquoi le monde, la Terre, s'est offert tant de fleurs et pourquoi c'est fondamental de se le demander et de chercher à nous éclairer sur l'histoire secrète des fleurs. C'est le titre de votre essai, François Parcy. Je propose un dernier éclairage sur cette science, justement, des fleurs et des plantes que vous contribuez à développer. Éclairage du professeur Marc Fontcave du Collège de France. Il est titulaire de la chaire de chimie des processus biologiques et il était récemment notre invité.
Lorsqu'on entend parler de recherche sur les fleurs, on se demande toujours pourquoi passer son temps à chercher dans ce domaine. Et là, je crois que, évidemment, la réponse est assez claire, c'est que les fleurs nous apprennent aussi des choses absolument passionnantes sur le fonctionnement du vivant. Et donc, c'est formidable qu'il y ait des chercheurs qui se penchent sur ces sujets-là. C'est assez formidable aussi qu'ils trouvent leur financement, mais peut-être que c'est le moment d'illustrer en quoi cette recherche sur cet objet un peu particulier peut conduire, et a déjà conduit d'ailleurs, à des découvertes, y compris appliquées.
François Parcy, jusqu'où peut nous entraîner cette science des fleurs et des plantes, justement ? Jusqu'à des découvertes qui nous intéressent tous.
Moi, je crois que le propre de la science, c'est justement de ne pas savoir où ça va nous emmener. Et c'est ça qu'on aime beaucoup, en fait. On cherche à comprendre, et puis un beau jour, on trouve des choses qu'on n'avait pas du tout supposées. On comprend, par exemple, les grandes lois de l'évolution, qui sont vraies pour les fleurs, qui sont vraies pour les animaux ou pour les hommes. Et puis, on peut aussi comprendre des choses qui vont ensuite pouvoir nous servir pour fabriquer certains composés, pour fabriquer des médicaments. Et donc, en fait, je trouve que vraiment la beauté de la science, c'est on propose des expériences. Comme le dit Marc Fontcave, on essaie d'être financé, donc on dit je vais essayer de faire ça, je vais sans doute y arriver. Mais au fond, ce qu'on aime le plus, c'est de se laisser guider par chacune des découvertes. Et c'est un peu comme ça, une sorte d'errance, mais une errance qui porte énormément de fruits, hein, du fait qu'on la laisse divaguer.
Oui, justement, les fruits sortent des fleurs. Hein, les beaux fruits sortent des fleurs, ça c'est évident.
Sans les fleurs, on n'aurait pas de fruits, bien sûr.
Sans les fleurs, on n'aurait pas de fruits. Dans quelle errance vous êtes allé, justement, vous-même, François Parcy, vous êtes parti de chercher l'origine, hein, c'est ça, l'origine des plantes à fleurs. Et puis dans ce monde-là, elles vous ont entraîné où, les fleurs ?
Ben, comme je le disais tout à l'heure, on a commencé par se poser la question de l'origine. Et donc, on étudie, en fait, on a un peu une double action. On étudie les fleurs qui existent et comment elles se forment. Et puis, quand on découvre quelque chose, on se dit, mais depuis quand ça existe ? Et c'est comme ça qu'on est allé vers Vichy en se disant, ben, est-ce que l'architecte floral a été inventé en même temps que les plantes à fleurs ou est-ce qu'il existait avant ? Et donc, aujourd'hui, on se pose des questions sur les mousses, sur les algues. D'autres laboratoires dans le monde se posent des questions sur l'architecte floral chez les fougères, par exemple.
Les toutes premières plantes, on pense
Les fougères sont les premières plantes à avoir des tissus vasculaires, à avoir réussi à faire monter l'eau dans les hauteurs. Donc elles ont été extrêmement importantes. Et en fait, chez la fougère, il y a une découverte très récente qui montre que l'architecte floral, même si elles n'ont pas de fleurs, il était déjà là. Et en fait, il était responsable de la croissance des tiges. C'est-à-dire qu'il avait déjà un rôle dans la croissance. Les petits groupes qu'on appelle cellules souches, donc c'est des petits groupes de cellules qui donnent naissance à tous les organes, eh bien, il y a des gens aux États-Unis qui ont découvert que l'architecte floral, il ne faisait pas de fleurs, mais qu'il aidait à la croissance des tiges. Et il y a également des choses très similaires découvertes chez une mousse qui s'appelle Physcomitrella patens. Et donc, ce qu'on voit, c'est une grande loi de l'évolution. C'est ce qu'on appelle la cooptation ou le bricolage de l'évolution. Mmh. Il y a des choses qui existent et la nature s'en saisit, les détourne et va faire du neuf avec du vieux. Il va faire des fleurs avec des gènes qui, à l'origine, ne faisaient que des tiges.
Va faire des fleurs, mais quand même on en revient à cette fleur, hein, à ces fleurs, organes sexuels de la plante, on l'a dit, grâce auxquels poussent les fruits. Ces fleurs, elles ont des formes incroyables. Vous nous avez fait passer cette orchidée de l'homme nu. Quelle autre forme vous pourriez nous décrire ou quelle autre couleur ? Qu'est-ce qui vous a frappé dans votre parcours de biologiste des fleurs ?
Alors personnellement, comme je me suis beaucoup attaché à Arabidopsis thaliana, elle a des petits pétales blancs qui sont finalement pas si attractifs. Et c'est normal, puisqu'elle s'auto-féconde. Elle n'a pas besoin des insectes.
Ça, c'est votre toute première, enfin, l'ancêtre des plantes.
Non, Arabidopsis thaliana, c'est la petite plante à fleurs modèle. Et en fait, elle, on pourrait dire, elle ne fait aucun effort, puisqu'en fait, comme elle s'auto-pollinise, elle n'a pas besoin d'insectes. Donc, elle n'a pas d'odeur particulière. Elle a un tout petit peu de nectar quand même. Et elle a des pétales blancs qui ne sont pas très attractifs. En revanche, il y a d'autres plantes, comme l'hibiscus, par exemple, que je décris un peu dans le livre, qui est étudié par une ancienne étudiante qui s'appelle Edwige Moiroux. Elle a des zones qui sont très attirantes pour les insectes et qui forment des couleurs, je le mentionnais, qu'on appelle structurales. Donc, c'est des petites stries. Et ils ont découvert que c'est l'irrégularité de ces stries qui va donner une sorte de halo bleu et que les bourdons ou les abeilles adorent ce halo bleu, sont très attirés par ce halo bleu. Et c'est comme ça qu'elles viennent et reviennent à ces fleurs pour les polliniser.
Oui, elles apprécient, les abeilles et les bourdons apprécient les fleurs, mais les voient sûrement complètement différemment de nous.
Elles les voient différemment. Et elles les sentent aussi, et il y a même une étude assez récente qui montre qu'elles peuvent détecter les zones de chaleur et qu'il y a des dessins sur une fleur avec des zones plus chaudes, des zones moins chaudes. Donc ce n'est pas un dessin en couleur, c'est un dessin en température, et que les pattes des abeilles sont capables de distinguer ces températures et de retourner vers cette fleur, attirées par ces dessins de température.
Et on n'a pas parlé du parfum. Du parfum des fleurs quand même.
Le parfum extrêmement important, notamment par les fleurs qui sont pollinisées de nuit, puisque de nuit on ne voit pas les couleurs. Il y a des tas d'insectes qui pollinisent de nuit et qui vont être attirés par ces parfums, attirés à distance, avant même de pouvoir les voir. Ils vont déjà sentir les parfums et revenir vers toujours les mêmes fleurs parce qu'ils sont guidés par le parfum qui diffuse à distance.
Donc le parfum, c'est pour les insectes de nuit ?
Essentiellement. Il y a des plantes de jour qui sentent très bon aussi, hein. Mais le parfum est particulièrement efficace quand les couleurs ne le sont pas.
Et vous arrivez à étudier les parfums aussi, ou ça fait partie d'autres études, d'autres domaines de recherche?
Alors personnellement, je ne le fais pas, mais j'ai un collègue à Lyon qui s'appelle Mohamed Bendaman, qui étudie le parfum des roses avec des collègues de Saint-Étienne, et il a découvert vraiment les molécules qui sont synthétisées par les roses. Il a fait des études tout à fait remarquables sur comment les roses anciennes synthétisent leur parfum, et pourquoi chez certaines roses modernes qu'on a privilégiées parce que c'est une seule fleur sur une tige, beaucoup de pétales, on a parfois perdu le parfum en sélectionnant des traits qui nous plaisaient, mais au détriment de ces gènes de biosynthèse du parfum.
Comment retrouver le parfum des roses? Joli titre pour votre prochain essai, peut-être, hein, qui sait, François Parsi, puisque vous avez même collaboré, ça doit être votre fils qui a fait les dessins.
Oui, j'ai la chance. J'ai la chance d'avoir un fils qui dessine très bien. Et comme je voulais mettre, comme l'a dit un des relecteurs, je voulais mettre de la chair humaine dans ce monde de fleurs. Et donc c'est lui qui a dessiné les portraits de certains des scientifiques dont je parle.
À découvrir. Hein. Merci infiniment, François Parsi, d'avoir fait sentir, entendre, voir, humer la science des fleurs et des plantes. On en redemande juste pour le plaisir et aussi pour la connaissance. Je ne saurais trop du coup vous recommander, chers amis auditeurs et internautes, la lecture de cet essai de François Parsi, l'histoire secrète des fleurs, aux éditions Humaine Science. Et vous revenez quand vous voulez à fleurir nos ondes. Tiens donc, François Parsi.
Avec grand plaisir, Caroline.
Question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster à volonté sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain pour nous intéresser à la santé psychique de ceux et celles qui nous gouvernent, avec le psychiatre Patrick Lemoine autour de la question: est-ce le pouvoir qui rend fou ou la folie qui mène au pouvoir? Diagnostic demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Merci de votre curiosité, surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, bientôt l'heure du prochain journal.